Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une histoire extraordinaire aujourd'hui. L'histoire de Jacques Anquetil, le champion cycliste des années 50 et 60. Mais nous n'allons pas parler de vélo. Nous allons parler de sa vie privée. C'est un roman sur une idée de sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Jacques Anquetil a fait un enfant à sa belle-fille. Cet enfant s'appelle Sophie Anquetil et elle a décidé il y a 15 ans de tout raconter dans un livre, Pour l'amour de Jacques, paru chez Grasset en 2004. Et elle est là, en face de moi, pour débriefer cette histoire tout à l'heure. Bonjour Sophie Anquetil.
Bonjour.
J'ai donc décidé, à partir de votre livre, de raconter cette histoire en étant fidèle à votre vérité. C'était une histoire d'amour. Il n'y a eu que de l'amour. Et on s'en parle après. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je veux simplement raconter comment j'ai été le centre d'une magnifique histoire d'amour. Révéler le destin d'une femme, ma grand-mère, Nanou, qui par amour pour son homme, Jacques Anquetil, lui offre sa fille, ma mère Annie. Laquelle, par amour pour eux, leur donne un enfant. Moi. J'ai toujours été fier de notre histoire, et même admirative, sans aucune réserve. Et j'ai toujours su que j'aurais un jour à raconter notre histoire. La voici. En 1954, Jacques Anquetil a 20 ans. Et il est déjà une star. Et comme il faut prendre soin du pur sang, son soigneur lui présente le docteur C, un notable normand installé au Petit Quevilly, en Normandie. Tout le monde du sport le consulte. Le docteur C est un précurseur d'une discipline qui démarre, la médecine du sport. Entre Jacques et le docteur C, le courant passe tout de suite. Ils se voient presque tous les jours et ils deviennent amis. Et Jacques devient familier de la maison du docteur et l'idole de ses deux enfants. Dans cette maison, au début, une seule personne se tient à l'écart de cet engouement pour Jacques. L'épouse du docteur, Jeannine dite Nanou. Elle le trouve timide, rigide et pour tout dire un peu plouc. Nanou est une superbe jeune femme blonde qui ressemble à la star du cinéma français de l'époque, Martine Carole. Jacques Anquetil en tombe, raide amoureux, sur le champ. Mais c'est la femme de son ami le docteur, et donc il tire le rideau. Et puis le temps passe, un an, deux ans, et Nanou se met à attendre les visites de Jacques, et à suivre sa carrière, et au printemps 1957, ce qui devait arriver arrive. Un soir en vacances à Villefranche, Jacques rejoint Nanou dans sa chambre, et au petit matin, elle se dit qu'elle l'aime. Et qu'elle l'aimera jusqu'à sa mort. Au début, leur passion est clandestine. Le docteur ne se rend compte de rien. Et puis un jour, Nanou lui dit tout. Je demande le divorce.
Le divorce? Ah, jamais! Et si tu quittes la maison, jamais tu ne reverras tes enfants.
Nanou se sent dans une impasse. Alors elle avale un tube entier de somnifères. Et elle ouvre le gaz. Une servante la découvre heureusement avant qu'il ne soit trop tard. Après quoi, le docteur la séquestre chez des amis. Et pendant ce temps-là, Jacques lui aussi est au bord du gouffre. À l'entraînement, il est lamentable. Son entraîneur finit par lui dire
« Mais vas-y, nom de Dieu !» Trouve où elle est et va la chercher.
Jacques Anquetil trouve l'endroit où elle est séquestrée. Et un jour, il va frapper à la porte. Il la trouve en chaussons et en peignoir.
Allez, c'est fini. Suis-moi tout de suite.
Et il l'emmène sur le champ, en chaussons et en peignoir. Et ainsi commence une formidable histoire d'amour. Le docteur finit par lui accorder le divorce, et le 22 octobre 1958, Jeannine, dite Nanou, devient Madame Jacques Anquetil. Mais le problème, ce sont les enfants. À partir de 1960, ils commencent à fuguer de chez leur père pour rejoindre leur mère chez Jacques. Au bout de 2 ans, le docteur leur laisse le choix. C'est perdu d'avance. Ils sont fascinés par Jacques Anquetil. Alors ils choisissent de vivre avec lui et avec leur mère. Et le docteur coupe les ponts avec sa progéniture. Il ne cherchera jamais à les revoir. Il ne prendra jamais de leurs nouvelles. En 1969, Jacques Anquetil a 35 ans, il décide de prendre sa retraite. Il court une dernière fois en décembre à Anvers, aux côtés d'Eddy Merckx, à qui il passe le flambeau. Il rentre à la maison avec sur le toit de sa voiture ses 2 vélos de course. Il les descend, ses gestes sont absents, il les suspend. Il n'y a jamais plus retouché de sa vie. « Je veux jamais plus remonter là-dessus. J'ai trop dégusté sur cet engin. » Et maintenant, il faut que je vous raconte la suite. Jacques n'est pas triste de la fin de sa carrière. Il a fait le travail et maintenant, il a bien envie de profiter du fruit de sa réussite. Mais à côté de ça, arrêter de courir le laisse face à un vide. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant de son sang. Et le problème, c'est que Nanou ne peut pas lui en donner un. Pour ses 2 enfants, Annie et Alain, elle a dû accoucher par césarienne. Et du coup, son ex-mari, le docteur C, a jugé préférable de lui ligaturer les trompes. Mais Jacques est taraudé par ce désir d'enfant. Mais bon, en attendant, il se contente de son beau-fils et de sa belle-fille. Il s'entend très bien avec eux. Alain lui voue une totale admiration, il devient son homme de confiance dans la propriété, ils vont marcher tous les deux, ils font le tour du domaine. Et puis un jour, en 1970, Jacques a passé la journée à gamberger seul, en balade, en forêt. Il rentre et il dit à sa femme Nanou. « Dis-moi Nanou, j'ai réfléchi, je vais trouver une mère porteuse. » Même une pute que je paierai pendant 9 mois. On s'arrange avec elle et puis c'est tout. Je veux un enfant de mon sang, tu comprends? Donc, ça se passe à Paris. Hein. Donc on part à Paris, c'est là-bas qu'on trouvera. Est-ce que ça plaît à Nanou, cette histoire de mère porteuse? Non, elle n'en dort plus. Mais enfin, c'est une idée folle. Et si la mère ne veut pas donner l'enfant après l'accouchement, comment il va faire? Hein? Et cet enfant? Qu'est-ce qu'il va lui dire sur sa mère? Il est célèbre en plus. Si ça se sait, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Et là, commence à naître dans la tête de Nanou une idée folle sur le papier. Mais c'est une idée pour le garder. C'est une idée pour que rien ne change. Demander à sa fille Annie d'avoir un enfant avec Jacques. Au début, ça ne sort pas de sa tête, hein. Elle ne dit rien à personne. Mais l'idée fait son chemin. Le chef vénéré du clan Anquetil crève que sa femme soit stérile. Eh bien, c'est au clan de lui donner ce qu'il veut. C'est à Annie de le faire. Nanou aura comme ça un enfant au plus près d'elle, qu'ils auront voulu à 4. Jacques, Nanou, Alain et bien sûr Annie. Mais maintenant, il faut en parler à Jacques et à Annie. Jacques, au début, il ne veut pas. « Ah non, Nanou, n'importe qui sauf elle, pas ta fille. » Mais Nanou sait qu'il finira par accepter. Quant à Annie, 18 ans, est-ce qu'elle est d'accord? Nanou prétend qu'elle lui a laissé le choix, qu'elle pouvait dire non. Il lui a fallu presque 50 ans pour en parler.
« Oui, ils m'ont laissé libre. Jacques n'imposait jamais rien. » Quand il voulait quelque chose, il l'avait, sans rien exiger. J'étais à peine sorti de l'adolescence. Depuis toute petite, Jacques Anquetil m'éblouissait. Et puis le couple qu'il formait avec ma mère paraissait sortir d'un film hollywoodien. La maison était un paradis. Mais bon, quand ma mère me l'a demandé, ça m'a abasourdi. Et en même temps, je sais que je plaisais aussi à Jacques. Ils ont joué avec le feu, c'est sûr. Pour le garder, elle lui a offert sa fille, moi. Et lui, Il a trouvé ça très bien, vous savez. Jacques, c'était un sultan oriental au charme dictatorial. Et donc un jour, moi je me suis retrouvé dans son lit, en mission sacrée de procréation. En vérité, j'étais dépassé par les événements, mais tout le monde avait l'air à l'aise, c'était comme ça, une folie douce. Je crois que je n'en ai pas voulu dès le début, mais sans le savoir, sans me l'avouer, j'aurais dû partir après la naissance. Mais je l'aimais.
Eh oui, Annie l'aimait. Et évidemment, lui aussi s'est pris de passion pour son jeune corps plein de vie.
Vous savez, après sa retraite sportive, à l'extérieur, il était chaque jour un peu plus un demi-dieu, une légende vivante. En revanche, à l'intérieur du domaine, les lois du monde extérieur ne s'appliquaient pas. Elles s'effaçaient devant les lois du maître incontesté.
Lentement, Jacques se convertit à l'idée de faire un enfant, son enfant, à sa belle-fille de 18 ans. Elle s'en aperçoit, son regard change. Il ne la regarde plus avec les mêmes yeux. Il la prépare à l'accepter dans son lit. Sans qu'Annie ne sache exactement ce qui l'emporte, si c'est le désir d'être père ou si c'est le désir d'elle. Désir que, bien entendu, il cache à Nanou dans un premier temps. En concevant un enfant avec Annie, il retrouve Nanou, jeune, mais sans perdre Nanou.
Vous savez, je ne suis pas leur victime. Moi aussi, j'ai joué avec le feu. Et puis le fait s'est accompli. Et puis, au lieu de passer quelques nuits dans mon lit, juste pour me mettre enceinte, eh ben, il y a passé 12 ans. Il s'est mis à m'aimer.
Quand arrive le bébé, la petite Sophie, toute la tribu se met d'accord pour dire à l'extérieur qu'elle est la fille de Jacques et de Nanou. Mais à l'intérieur s'installe un drôle de rituel. Tous les soirs, Jacques met la petite Sophie dans le lit de Nanou et il rejoint Annie dans son lit. Et puis dans la nuit, il remet Sophie dans le lit d'Annie et il réintègre la couche conjugale auprès de Nanou. Avec le recul, Sophie, devenue grande, n'a pas de regret de ça.
Oh! Ça ne me paraît pas scandaleux du tout. Même si je suis parfois étonné de penser ça, ça ne m'offusque pas. Parce que ça vient de nous. J'ai grandi avec beaucoup d'amour, vous savez. Il n'y a que de l'amour dans cette histoire. Je l'ai vécu de l'intérieur, je le sais. Bon, je me doute que d'autres s'offusqueront. Mais pourtant, c'est vrai. Il n'y a jamais rien eu de moche sur le fond, rien du tout. Dans d'autres pays, certaines mœurs, certaines cultures autorisent à vivre de façon normale ce que nous avons vécu. Aucune culture n'autorise l'inceste, mais ça n'était pas de l'inceste. Je n'étais pas sa fille, j'étais sa belle-fille.
Cela dit, des questions restent en suspens. Si Nanou n'avait pas été stérile, est-ce que les choses se seraient passées différemment? Est-ce que Jacques aurait quand même fini dans le lit d'Annie, par amour? Et si Annie n'avait pas été là, est-ce que Jacques aurait quitté Nanou pour prendre une femme féconde? Ce qui est sûr, c'est que Jacques aimait par-dessus tout contrôler, imposer sa loi, régner sur son monde à lui. C'était un monarque, un sultan, un despote éclairé, charismatique, tout en subtilité, tout en finesse, mais avec une poigne de dictateur qui appliquait la loi de la nature, pas la loi sociale. Il n'avait pas de double vie, il avait simplement tout sous la main, une femme et une maîtresse. « Sophie, la petite dernière du clan Anctil, dit qu'à partir de là, la vie s'écoule délicieusement. Elle comprend très vite qu'elle a deux mamans, qu'elle appelle d'ailleurs toutes les deux mamans, et ça va durer comme ça toute sa vie. Et donc, elle offre deux cadeaux à la fête des mères, et quand elle se dispute avec l'une, eh bien, elle va se faire consoler par l'autre. Elle passe de bras en bras, elle est le centre de l'attention. Et ça n'est que quand arrive l'école, vers 5-6 ans, qu'elle découvre que les autres enfants n'ont qu'une seule maman. Et ça lui paraît bien triste. Et comme les autres, la petite Sophie est éblouie par son papa, Jacques Anctil. Parce qu'il l'aime inconditionnellement, sans réserve, à l'infini. Et à l'extérieur, elle voit bien que tous les autres, innombrables, eux aussi sont éblouis par lui. La gloire de son père. Nourrisson, elle vit dans ses bras, et dès qu'elle sait marcher, il l'emmène partout, sur les marchés aux bestiaux de Normandie, dans les foires, à la patinoire, parfois au cirque, ou dans la vieille ville de Rouen. Les gens viennent le voir pour lui serrer la main. « Oh bonjour, monsieur Anctil. Oh, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. C'est votre fille ? Elle est mignonne. » Il aime montrer qu'il a un enfant. Il attendait ça depuis tellement longtemps. Jacques Anctil adore prendre des vacances avec les siens, quitte à faire manquer quelques jours d'école, voire plusieurs semaines à Sophie. Mais il prévient l'institutrice, hein, qui lui donne des exercices à lui faire faire, et il les fait. En revanche, hors des vacances, pas question qu'elle loupe le moindre jour de classe. De son enfance, Sophie ne retient qu'une leçon. « Vous savez, mon père, Nanou et Annie m'ont tellement aimé, qu'ils m'ont mis à l'abri de tout. Jamais, n'entendez, jamais je ne me suis senti... ni berné, ni menacé, ni utilisé, ni accaparé, ni rejeté. En vérité, je ne me suis jamais senti qu'adoré. À l'intérieur de notre quatuor, il n'y avait pas de mensonge. Il y en avait pour le monde extérieur, mais sous son toit, mon père n'était pas dans le mensonge. Combien d'hommes bigames, mais qui ont tout cloisonné, peuvent en dire autant ? Hein ? Oh, on me dit souvent que cette situation a forcément laissé des traces sur moi, que ça a forcément fait des dégâts. Eh bien non. Même si je sais que nul n'est pleinement lucide sur soi-même, hein, que chacun porte en lui ses zones d'ombre, ses angoisses. Je réponds non. J'ai vécu mon histoire dans le bonheur, hein, en tout cas quand j'étais petite fille. Après, quand est venu le temps des disputes entre adultes, le temps de la folie d'un homme amoureux, le temps où tout le monde s'est broyé. Et puis quand est venu le temps de la maladie, de la souffrance et de la mort. Oui, là, j'ai été malheureuse. Jusqu'à la panique. J'ai été au bord du gouffre. Mais justement, c'est tout ce bonheur, c'est toute cette gaieté, c'est tout cet amour qu'on m'a offert qui m'a empêché de me précipiter dans le gouffre. Mais une chose paraît claire dans cette histoire. Sans la petite Sophie, le trio Jacques, Nanou, Annie n'aurait pas tenu. Parce qu'assez vite, entre Nanou, la régente au plein pouvoir, et Annie, sa fille, la favorite du sultan, une rivalité s'instaure. Les frictions deviennent fréquentes au harem. Les deux mamans s'affrontent, parfois devant la petite Sophie. À ce moment-là, il lui suffit de pleurer, et elles oublient leur querelle. Sophie et leur garde-fou. Les choses se compliquent avec l'arrivée de Dominique, la femme d'Alain, le fils de Nanou. Dominique et son fils Steve qui s'installent à la maison, au milieu du clan. Une femme de trop, une pièce rapportée dans la cellule de base. Ça dure 2 ans et au bout de 2 ans, c'est le clash. Annie devient persuadé que Dominique a épousé Alain, son frère, pour lui ravir Jacques-Antil. Et un jour, ça explose. Un jour, Alain, Dominique et Steve quittent le domaine pour aller s'installer à l'autre bout de Rouen. Et Jacques fait alors son premier infarctus. Donc, il n'est pas invulnérable. Et à partir de ce moment-là, Annie, qui est la maîtresse de son beau-père depuis 12 ans, se sent prisonnière. Et là, un homme passe. Un homme qui lui explique qu'elle est une femme à part entière, qu'elle n'est pas une épouse annexe, qu'elle est libre, qu'elle est jeune, qu'elle est belle. Annie commence par vouloir aller travailler hors du domaine. Jacques est fou furieux. Il le lui interdit. Elle se soumet. Mais elle lui demande de lui donner la place de première dame qu'elle mérite. Elle demande le départ de Nanou, sa mère, sa rivale. Et lui, il tergiverse et finalement, Annie s'en va. C'est un basculement. Jacques, pour la première fois de sa vie, a perdu la main. Il aime Annie. Il est prêt à tout pour qu'elle revienne. Mais Annie exige le départ de sa mère, Nanou. La situation est bloquée. Jacques a tellement de chagrin que Nanou finit par demander à Alain et Dominique de revenir au château. Jacques est heureux du retour d'Alain, mais il n'a pas renoncé à Annie. Et un jour, il dit à sa petite Sophie, « Tu vas dire à ta mère que j'ai des vues sur Dominique, comme ça elle ne supportera pas et ça la fera revenir. Mais peut-être que tu deviens un peu fou, papa, non ? Peut-être. De toute façon, au point où j'en suis, mais Annie ne revient pas. Et un jour, au sommet de sa rage, Jacques Anquetil lance à sa femme et à sa fille.
« Eh bien, puisque c'est comme ça, je me mets avec Dominique. »
Comment est-ce qu'il savait que Dominique succomberait à ses charmes? Ou est-ce qu'il l'avait déjà fait en secret? En tout cas, le soir même, Jacques Anquetil est dans le lit de Dominique. Et à partir de là, la cellule de base Anquetil implose. Nanou s'efface, elle déménage. La petite Sophie rejoint sa mère. Alain s'en va. Le sultan offensé a tout balayé. Il a tout cassé. Il ne pourra plus jamais recoller les morceaux. Et maintenant, au domaine, il n'y a plus que Jacques et Dominique. Et là naît un enfant, Christopher. Jacques essaye encore une fois de faire revenir Annie.
D'accord, Jacques. Je veux bien revenir. Mais à une condition, que Dominique s'en aille.
Écoute, Annie, attends au moins qu'on ait baptisé le petit Christopher.
Non. C'est tout de suite ou plus jamais.
Ce sera plus jamais. La veille du baptême de son fils Christopher, Jacques Anquetil, qui souffrait depuis un petit moment, apprend qu'il a un cancer de l'estomac. C'est Dominique qui s'occupe de lui. Il meurt le 18 novembre 1987, à l'aube.
Histoire que j'ai tirée presque mot pour mot, quasiment intégralement, du livre de Sophie Anquetil, paru chez Grasset en 2004, Pour l'amour de Jacques. Et Sophie Anquetil est là avec nous. Alors je ne voulais pas du tout toucher à votre récit, je vous ai raconté sans juger. Ça va ? J'y suis arrivé ?
Oui, bravo, c'est une belle interprétation.
Merci. Alors vous avez écrit ce livre il y a 15 ans. Et je me dis qu'évidemment, depuis 15 ans, les choses ont dû bouger un peu.
Légèrement, on va dire.
Pour vous d'abord, et ensuite sans doute pour votre mère, Annie. Pour vous d'abord, dans quel sens avez-vous bougé ?
Quand j'ai écrit ce livre, en fait, j'avais le besoin de faire taire en fait, des choses que j'entendais un peu dans le dos de mon père, où des langues commençaient à se délier. Et du coup, pour moi, c'était vraiment de pouvoir mettre les points sur les i et les barres sur les t en disant non, c'est pas une histoire d'un homme qui a eu la mère et la fille, mais c'est vraiment une histoire d'amour avec cette nécessité d'avoir un enfant. Et je trouvais que c'était une belle histoire, dans le sens où je l'avais vraiment vécue pleinement et j'étais bien équilibrée dans ma vie avec cette histoire et dans le même le cocon familial. Donc pour moi, c'était important de le nommer. Je pense que ça a pu aider aussi des personnes, en fait, qui vivent parfois des choses difficiles, de voir qu'avec l'amour, en fait, quand on communique, tout est possible. Et surtout, je pense que c'est la communication qui est très importante aussi derrière tout ça. Disons qu'après, moi, je suis thérapeute aujourd'hui et du coup, j'ai fait un travail plus profond sur moi-même. Alors,
j'allais vous demander combien d'années de psychanalyse, mais...
Bah, j'en ai fait aucune, figurez-vous, sauf que maintenant, je me forme en fait à une technique qui n'existe pas en France, qui s'appelle le Pelvic Heart Integration. Et du coup, je suis obligée d'aller en thérapie, à la fois en groupe et en individuel. Et j'avoue que c'est passionnant. Donc, je peux voir en fait, avec le recul aujourd'hui, justement, le chemin que j'ai fait. Je me suis rendu compte que dans ma vie, bah, ma mère, elle n'était pas à sa place, ma grand-mère n'était pas à sa place. Et du coup, grâce à ces thérapies, j'ai pu remettre tout le monde énergétiquement à leur place. Donc ça a été un peu dur pour Nanou de reprendre la place de grand-mère.
Ouais.
Mais maintenant...
J'allais vous le dire, parce que vous dites ma grand-mère.
Ouais.
Alors que vous dites dans le livre, je l'appellerai maman jusqu'à la fin de mes jours.
Alors je l'appelle toujours maman, mais quand je la nomme maintenant, c'est vraiment la position de grand-mère, et même pour mes enfants, c'est leur arrière-grand-mère. Donc ouais. Ça, c'est important. Et puis je vois aussi ce que ça a pu créer. Ma mère, elle a eu du mal à prendre sa place de grand-mère également, parce qu'il y avait toujours sa mère derrière. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est aligné.
Oui, vous voilà. Avez rangé tout le monde à
J'ai
sa place.
J'ai rangé tout le monde dans les cases. Puis bah, moi, du coup, ça me donne aussi une autre vision en fait, de cette histoire.
Vous diriez aujourd'hui, ça n'était que de l'amour, encore.
Oui.
Il n'y avait pas là-dedans de manipulation mentale, comme on pourrait le voir, d'emprise, de...
Bah, en fait,
quelque chose d'un peu sectaire. En fait.
La question, c'est... je ne sais pas quelle est la dimension en fait, de la manipulation et quelle est la dimension de l'amour. Et je pense qu'il y a un mix des deux quand même. Parce que lui, il voulait un enfant. Donc il était vraiment, et c'était quelqu'un de persuasif, de déterminé. On le voit à travers sa carrière. Quoi. C'était un battant. C'était vraiment
un homme de volonté.
De volonté. C'était aussi un visionnaire dans sa façon de voir les choses. Donc je pense qu'il y a une part sûrement inconsciente de manipulation.
Votre mère Annie, je me dis que c'est elle qui a le plus bougé. Depuis 15 ans, forcément. Parce qu'on sent dans le livre qu'elle est sur le fil. Elle est moins sûre que vous, que tout ça tient par l'amour.
Alors je pense que c'est elle peut-être qui en a le plus souffert. Donc à ce niveau-là...
C'est ce qu'on ressent.
Voilà. À ce niveau-là, ça a été, je pense que sa jeunesse, sa vie de femme dans ses premières années a quand même été, entre guillemets, volée par ce contexte. Après, dedans, elle s'est installée et elle a été heureuse aussi. Dans cette forme-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est bon. Elle est partie avec quelque chose à porter qui était quand même de l'ordre. Je pense que quand même elle m'a eu, elle avait une part très envie de m'avoir, et puis d'autre part, je pense qu'elle n'était pas prête pour ça.
Il faut qu'on revienne à votre maman parce que donc je l'ai fait vivre moi dans mon récit sous forme de confidence comme ça qu'elle fait comme si elle donnait une interview. En vérité, c'est une conversation que vous avez eue avec elle et je veux redire que. J'ai vraiment senti entre les lignes, malgré tout, une forme de souffrance chez votre mère. C'est quand même elle qui, la première, pose le mot de dictateur. C'est elle qui dit, oh bien sûr, ils m'ont donné le choix, mais quand ils voulaient quelque chose, ils l'avaient. Donc c'est elle qui a le plus de doutes, j'ai l'impression. Presque plus que vous.
Disons que c'est une histoire qui est assez paradoxale aussi, si on... Il y a ce côté où elle a envie, même si je m'imagine un instant à la place de ma mère avec ce couple fusionnel et qui est magnifique, avec cette carrière fulgurante, avec cet homme qui est aussi beau, qui les emmène à travers le monde dans les années 60. C'est, aujourd'hui, on va
oui,
partout,
c'est banal,
mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Et du coup, quand sa mère lui fait cette proposition, ben, elle a envie de leur faire plaisir. Elle a envie de participer en fait à cette mission qu'on lui demande. Je pense qu'il y a vraiment l'envie du cœur pour soutenir en fait ce couple qui est sa famille. Et puis j'imagine qu'elle était jeune, qu'elle réalisait pas non plus toute la dimension que ça pouvait avoir pour elle. Parce qu'après, elle est rentrée dans un système où elle est tombée amoureuse de cet homme.
Où il est tombé amoureux d'elle.
Où il est tombé amoureux d'elle, et où du coup, bon, bah, ils ont quand même construit un ménage à trois pendant 12 ans. Donc moi, je suis née dans ce triangle.
Il y a un absent, enfin il y a une absente un peu dans votre livre, elle est là. Elle est le patriarche, la patriarche, c'est Nanou. Mmh. On ne sait pas ce que pense Nanou, véritablement.
Nanou, c'est une femme de tête. Moi, je me pose toujours aujourd'hui la question à savoir si elle n'avait pas été dans la vie de mon père, s'il serait devenu vraiment qui il a été dans sa carrière. Je pense que c'est une femme qui a vraiment donné toute sa dimension à l'homme. Moi, j'ai une croyance que les femmes, quelque part, sont des grandes initiatrices. Et qu'on dit, il y a une phrase célèbre qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc, elle est cette femme.
Elle est son égérie.
Voilà.
Son inspiratrice.
Elle est sa muse, elle est son inspiration. Donc, c'est une femme forte, c'est une femme de tête, c'est une femme qui tient, qui contient, qui crée, en fait, aussi cet espace pour que lui puisse se réaliser.
Est-elle un peu manipulatrice?
Bonne question, faudrait lui
puisque
poser.
Puisque c'est elle qui insuffle cette idée. Rendons à Jacques Anquetil que ce n'est pas lui qui a eu l'idée de vous concevoir avec votre mère. C'est elle, Nanou, qui a cette idée.
Alors ça, c'est le bon dilemme, parce qu'en fait, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui derrière elle?
Ah, il peut lui avoir suggéré. La mère porteuse, c'est une manière de faire avancer le pion.
Tout à fait.
De dire, tiens, et si on faisait porter déjà, est-ce que si ça, ça passe, on peut passer à l'étape suivante?
Donc j'ai pas la réponse, mais c'est une bonne question.
Vous n'avez pas la réponse parce qu'on ne parle pas de ça avec Nanou tranquillement?
Bah, c'est-à-dire moi, je lui ai déjà posé la question directement et elle m'a dit non, c'est moi qui ai demandé à ta mère. Donc pour elle, c'est elle qui a demandé la première, en fait, à Annie de vouloir être cette mère. Donc c'est clair pour elle. Mais après, si on le prend sur un autre plan, avec un autre regard et en prenant un peu de distance, on peut se poser la question.
Mais Nanou n'a pas voulu débriefer avec vous? Elle n'a pas voulu s'asseoir là, comme vous vous êtes assis avec votre mère Annie un jour, avec deux verres de vin, vous racontez tout ça, il y a du saucisson,
tout est là
dans le livre.
Non mais si, elle est là aussi.
Avec Nanou aussi.
Oui, avec Nanou aussi, ouais.
Ouais, mais elle se confie moins.
Disons que ce qui est plus dur, c'est de faire parler ma mère. Nanou, elle, si je lui demande quelque chose, elle me répond vraiment sans hésitation et elle est honnête et franche. Et ma mère, c'est quelqu'un de plus réservé. Vous savez, j'ai grandi avec deux images de femmes. Alors souvent, on dit voilà, il y a l'image de la mère, l'image du père. Moi, j'en ai trois. J'ai deux mamans. Donc j'ai deux mamans, d'une femme forte et une femme effacée.
Annie est effacée.
Annie est effacée. Elle est discrète. C'est quelqu'un de timide. Donc du coup, dans cette configuration, moi, il a fallu que je trouve en fait ma position de femme. Quelle femme je suis, puisque du coup j'ai deux exemples qui sont totalement opposés et paradoxales.
Donc vous ne savez pas si elle est victime ou complice finalement, Nanou, de cette histoire?
On ne sait pas.
Ça vous va de ne pas savoir? On sent dans votre bouquin qu'il y a une sorte de philosophie chez vous qui est que, en vérité, on croit savoir mais on n'est pas sûr et que donc c'est peut-être pas la peine d'aller passer sa vie à chercher.
Alors ça me va, c'est-à-dire que moi je pense que quand on regarde quelque chose, on a plusieurs angles de vision, donc selon comment on se positionne, on peut voir une certaine chose, puis la personne qui est en face, elle va voir une autre chose. Donc par rapport à ça, moi j'ai pas toute l'entièreté de cette situation. Donc qu'est-ce qui me va? C'est ce que je ressens aujourd'hui et comment je me suis construit avec ça et qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma construction de vie et comment je peux maintenant aider d'autres femmes à travers ce que je fais, à pouvoir
trouver
qui elles sont.
Votre métier de thérapeute.
Voilà. Moi, je travaille aussi beaucoup avec les femmes. Je fais une fois par an, j'organise avec une autre. Alors, c'est amusant parce que c'est une femme qui est très différente de moi, qui est thérapeute aussi. Et on a créé un stage qui s'appelle le Sky Femme. Et c'est en fait une semaine où on accompagne des femmes pour aller vers la rencontre avec l'homme. Donc, moi, je travaille aussi, je suis enseignante de tantra.
C'est du coaching, ça?
Non, c'est du tantra.
Ah, je ne sais pas ce que c'est le tantra.
Bah, le tantra, en fait, c'est une philosophie de vie qui permet en fait, d'atteindre la spiritualité en passant par son corps.
D'accord, c'est d'inspiration hindouiste?
C'est une inspiration, enfin il y a plusieurs courants de tantra, hein, dans le bouddhisme, dans le Tibet, en Inde. Après, il y a ce qu'on appelle le néo-tantra aujourd'hui, donc il y a vraiment plusieurs voies. Pour moi, c'est vrai que ce qui le définit le plus, c'est tout d'un coup, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Comment c'est pour moi? Et de mettre de la conscience dans ce qui se passe en moi. Mmh. Et de là, ça peut me permettre d'aller vers la spiritualité. Donc aujourd'hui, j'accompagne des femmes dans cette voie-là.
Jusqu'à quel point est-ce que Nanou a joué à ce que vous étiez sa fille?
Jusqu'au bout.
Totalement.
Elle est toujours là, elle me considère toujours comme sa fille. Et
Parce qu'elle n'était pas privée d'enfant, elle. Donc au fond des deux, c'est elle qui avait, en théorie, le moins de frustration. Que lui veuille un enfant de son sang, bon, mais elle en voulait un avec Jacques.
Bah ça, c'est ça, voilà. Je pense que moi, je suis la petite dernière et je suis la préférée. Donc c'est vrai que c'est un
peu
dur.
Vous êtes la préférée.
Je suis la préférée. Elle l'a toujours dit, donc c'est un peu dur pour moi de dire ça, parce que je pense à mon oncle et ma mère, du coup, qui se sentent voilà, un petit peu dépréciée par rapport à ça, mais c'est vrai que, en fait, je suis l'enfant qu'elle aurait adoré avoir.
Un mot sur Alain, qui n'est pas très présent non plus dans votre récit, qui est donc votre oncle, qui est le frère de votre mère. On se demande pourquoi. Alors, on comprend qu'il a une relation fusionnelle avec Jacques Anquetil et que il lui a confié notamment la gestion de ce domaine dont j'ai pas parlé, mais qui est un château avec des, il y a beaucoup de terres, il y a des hectares et des hectares de terres. Donc, c'est lui qui gère un peu tout ça. Mais, enfin, il rencontre cette fille, Dominique. Pourquoi diable, il sait, il connaît la perversité du système. Pourquoi diable est-ce qu'il vient s'installer avec elle au château?
Parce que je pense qu'au départ, lui, il est, enfin, le château, c'est vrai qu'il est grand, c'est une grande maison de maître, hein, et puis mon père, il est vraiment, enfin, c'est son fils, et pour Alain, c'est vraiment son père spirituel, enfin, même, c'est plus que ça. J'ai envie de dire que tous ses repères aujourd'hui d'homme, c'est mon père qui lui a transmis. Donc moi, j'étais avec lui lorsque mon père est parti, lorsqu'il est décédé, et j'ai vu dans ses yeux qu'il perdait son père. Mmh. Je veux dire, et ça trompe pas, on le sent, on le voit. Donc il y a vraiment, voilà, c'était quelqu'un qui à la fois était un exemple, lui a tout appris, l'a aidé à se construire en tant qu'homme.
Je ne me rends pas du tout compte de la déflagration qui a pu être votre livre en 2004. J'avoue que je me souviens vaguement de sa sortie, mais je ne sais pas si le monde a découvert une histoire ou si, au fond, déjà tout le monde savait en 2004.
Non, je pense qu'il y a vraiment, ils ont découvert cette histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de retours, alors des gens qui me disaient oui, en fait, elle s'attaque à un mythe. Et,
on vous en a voulu.
Il y a certaines personnes qui
c'est
m'en
fou.
Ont voulu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui m'en ont voulu, c'est vraiment ceux qui n'ont pas lu le livre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient gênées par cette histoire. Et quand ils ont lu le bouquin, ils m'ont écrit en me disant merci, parce qu'en fait, ça ne dénature pas du tout l'image qu'on avait de Jacques Anquetil, mais au contraire, ça lui donne encore une autre dimension.
Poulidor, savez ?
Oui, Raymond, bien sûr.
Et Cyril Guimard ?
Oui, bah ça.
Antoine Blondin ?
Antoine Blondin, Fernand Choisel, enfin voilà.
Jean Gabin ?
Jean Gabin, alors non, j'étais pas née, je crois, Jean Gabin, je sais pas. J'avoue.
Les copains savaient ?
Ouais, tout le monde, tout le milieu en fait, même dans le milieu du cyclisme, hein, je veux dire, les gens le savaient.
Mais personne ne disait rien ?
Personne ne disait rien.
Enfin, ça parlait sous cap, sans
c'était,
doute.
Moi j'habite encore, c'était l'Omerta.
Ouais. C'était l'omerta absolue.
Oui.
Ça ne serait jamais venu à l'idée de le glisser comme ça, en sous-entendu dans une interview, un article sur Anquetil.
Non, il avait quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il avait vraiment une aura particulière, mon père, et Pierre Chani, par exemple, qui était très ami avec lui, qui était journaliste. À un moment donné, ils se sont
fâchés. Journaliste à l'Équipe.
Ouais, à l'Équipe, ouais, pardon. Ils se sont fâchés pour une broutille, parce qu'il avait écrit qu'il mangeait des moules à la crème, et c'était des moules marinières. Donc il lui a pas parlé pendant 6 mois. Et...
Donc bon. Il organisait beaucoup de fêtes, Jacques Anquetil, dans ce château. Et tous ces gens-là étaient là, Guimard, Poulidor, Chani...
Ocaña, Merckx, enfin voilà, il y avait vraiment tout...
Tout le monde du cyclisme était là.
Ouais.
Et là, on cachait rien.
Non, là tout était...
Il embrassait votre mère en public, par exemple?
Alors ça, c'est une bonne question. Je me souviens pas qu'il était très
démonstratif.
Ou bien il jouait
le rôle de mari, de...
Bah, il n'était pas très démonstratif en niveau affectif en public. J'ai pas le souvenir de... devant tout le monde, qu'il embrassait l'une ou l'autre. Il y avait de l'affection, il y avait des choses, mais voilà, c'était pas quelqu'un qui s'exposait vraiment comme ça.
Alors je me dis évidemment que cette histoire vous donne à vous un point de vue intéressant sur le grand débat de ces dernières années, sur faut-il un papa et une maman pour élever un enfant, ou existe-t-il d'autres modèles tout aussi valables? C'est le débat autour du mariage des homosexuels, de la GPA, du droit des homosexuels à adopter. Est-ce qu'il faut donc un papa et une maman, Sophie Anquetil, pour élever un enfant?
Alors moi, j'ai pas de jugement en fait sur ce qui se passe. J'ai du coup une grande ouverture d'esprit.
Ah, je suppose. Oui.
Voilà.
Vous pouvez pas être coincé.
C'est ça. Moi, j'ai des amis, par exemple, à New York, qui sont mariés, deux hommes, et qui ont adopté une petite fille. Et ce que je peux témoigner, c'est que je vois que cet enfant est équilibré parce qu'elle a l'amour de deux personnes. Alors c'est sûr que c'est amusant parce que il y en a un qui va avoir un moment plus le rôle de la mère entre guillemets, et puis d'autres plus le rôle du père. Voilà. Mais je pense qu'en vraiment il y a de l'amour et que l'enfant peut s'épanouir pleinement, père ou mère, qu'importe, c'est vraiment ce qu'on lui amène dans sa nécessité, dans ses besoins, et qu'elle soit soutenue et en sécurité dans ça. Donc à partir de là, un enfant, il peut se construire de façon libre et s'expandre et devenir qui il est, mais pas forcément avec l'image d'un père ou d'une mère. C'est ma croyance aujourd'hui, ou c'est ce que je rends compte aussi aujourd'hui.
Même si vous avez toujours eu l'équilibre de la masculinité, et il y avait de la testostérone hein, dans Jacques Anquetil, et de la féminité x2. Différencié, avez-vous dit, puisque votre grand-mère et votre mère ne se ressemblaient pas et offraient une forme de féminité différente.
Tout à fait.
Donc vous avez eu l'équilibre parfait dans ce trouple, puisque c'est un trouple.
C'est ça.
Un trouple transgénérationnel. Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de vivre une histoire comme celle-là? C'est-à-dire, si on venait vous voir en disant, voilà, bah, moi aussi, je sais pas, on m'a demandé... Vous diriez vas-y ou vous diriez écoute, tu te simplifierais la vie à faire les choses de manière conventionnelle?
Moi j'ai envie de dire d'abord je veux voir les trois pour les entendre tous les trois sur ce qu'ils ont à dire là-dedans et si c'est le libre arbitre de chacun.
Ouais.
Et pourquoi ils ont besoin de ça et de les entendre communiquer autour de ça.
Parce que ça a été le cas chez Anquetil.
Ça a été le cas. Et moi je pense que vraiment la communication c'est vraiment une clé.
Tout est sur la table.
Voilà, une clé mais même pour les couples, je veux dire même dans un duo, je veux dire la communication dans toute relation quelle qu'elle soit, je veux dire entre amis, dans son couple, dans sa famille, c'est vraiment une clé très importante. Et pas seulement communiquer mais de savoir écouter l'autre. Savoir écouter l'autre à partir de sa nécessité et de ses besoins.
Vous, il y a un moment où on vous dit les choses, où ça se fait par glissement, vous avez donc ces deux mamans, et petit à petit vous comprenez que l'une est votre mère génitrice et est la fille de l'autre.
Bah c'est ça qui est magique dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de moment où on m'a dit « c'est ta mère, c'est ta grand-mère ».
Il n'y a pas de fauteuil face à face.
Je l'ai toujours su. C'est inné, donc ça franchement, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais j'ai envie de dire bravo.
Merci Sophie Anquetil d'avoir accepté de me confier tout ça.
Merci Christophe.
De m'avoir autorisé à poser ma voix sur cette histoire incroyable. Manifestement magnifique, même si, vous le savez sans doute jusqu'au bout, on a, en tant que personnage extérieur au clan, un petit doute. Mais j'ai voulu respecter, en tout cas, la version que vous donnez de ce récit. Merci infiniment.
Bah merci Christophe, c'était vraiment touchant et pour moi, émouvant de l'entendre de votre voix.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.